Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Et Yoma, page 23, Daf Kaf Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Qui ne se venge pas et qui ne garde pas rancune comme un serpent, et notre Talmud Chacham n'est pas considéré comme un Talmud Chacham, parce que toute atteinte en l'honneur du Talmud Chacham est aussi une atteinte en l'honneur de la Torah. La Gemara demande, Vehaktim, voici que la Torah nous dit, Lotikom velotitov, tu ne devras pas te venger et tu ne devras pas garder rancune. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut dire que le Talmud Chacham doit faire le contraire? La Gemara répond, Tahu bemaman nous dit-il. Le pasuk qui nous interdit la vengeance et la rancune parle à propos des affaires monétaires. Les Tania, comme on voit dans une baïta, Ezuhi nekima, Ezuhi netira, quelle est la vengeance et quelle est la rancune que la Torah interdit? La baïta explique, nekima, la vengeance veut dire la chose suivante. Amarlo, si par exemple une personne dit à son ami, Hachileni magalcha, prête-moi ta faux. Amarlo, là. Alors il lui a répondu, non, je ne te la prêterai pas. Le machar, le lendemain, Amarlohu, celui qui a donc refusé le prêt de sa faux, demande au deuxième, Hachileni karmumcha, prête-moi ta hache. Amarlo, il a répondu, Eni machilcha, je ne te prêterai pas la hache, que derech le shaltani, de la même manière que tu n'as pas voulu me prêter hier ta faux. Zouine kima, ça, c'est la vengeance, qui est interdite par la Torah. Vezouine tira, quelle est la rancune interdite par la Torah? Amarle, tu lui as dit, Hachileni karmumcha, prête-moi ta hache. Amarle, lo. Il a répondu, non, je ne te la prêterai pas. Le machar amarle, hachileni chaloukha. Le lendemain, il lui a dit, prête-moi ta tunique. Amarlo, il lui répond, hela, voici, je te la donne. Eni kemotra, je ne suis pas comme toi, je suis le shaltani. Parce que toi, tu n'as pas voulu me prêter ta hache. Zuhi netira, ça c'est la rancune que la Torah a interdite. Donc nous voyons dans cette braïta que ce n'est qu'à propos des affaires monétaires qu'on n'a pas le droit de se venger ni de garder rancune. Par contre, pour un affront, la Torah n'a pas interdit la vengeance et de garder rancune. C'est pourquoi nous disons que le Talmid Chacham doit se venger et garder rancune pour un affront qu'on lui a causé. La Gemara demande, Vetzara de Goufalo, et à propos d'une peine corporelle, donc par exemple un affront, il n'y a pas lieu de pardonner, donc de ne pas garder rancune. Et donc, il sortirait de là que le Talmid Chacham, qui doit donner l'exemple aussi, devrait pardonner pour un affront. Vatania, voici qu'on nous voyons dans une braïta, Hanel Avim Venamolvin. Ceux qui subissent des insultes et n'insultent pas en retour, Shomim Kherpatam, ils entendent des affronts à leur sujet, Venam et Shivim, et ne répondent pas. Aussi Mehava, ceux qui accomplissent les mitzvot par amour pour Hachem, Usmechim Beisurim, et aussi ceux qui sont contents des malheurs qui leur arrivent, par exemple des affronts qu'ils subissent, Alhem Akatub Omer, sur eux, le pasuk dit dans Shoftim, de Ohavav, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu, auront le mérite de Ketzet Hashemesh Bigvorato, de briller comme le soleil brillera dans le futur quand le Mashiach viendra. Il est écrit à ce sujet que le soleil brillera 343 fois plus que le soleil d'aujourd'hui. En tout cas, nous voyons donc qu'il y a lieu de ne pas se venger pour un affront, et le Talmid Chacham qui doit donner l'exemple aussi ne devrait pas se venger pour un affront. La Gemara répond, le olam denakit levelibé. Il est vrai que de ce passage qu'on voit qu'il ne faut pas se venger même pour un affront, mais par contre, le passage n'interdit pas de garder rancune justement pour un affront, et donc si par exemple un Talmid Chacham subit un affront, il pourra garder rancune, et si par exemple quelqu'un veut le venger, il pourrait ne pas l'empêcher. La Gemara demande, Beha Amar, voici qu'a dit Rava, Kol Hamar Viral Midotav, tout celui qui passe sur son caractère. En d'autres termes, tout celui qui pardonne un affront, Mahavir Imlo Al Peshav, on passe sur ses fautes. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes. Donc, nous voyons donc qu'il y a lieu même de ne pas garder en queue pour un affront. La Gemara répond, De me faille soulève, ou me faille. Effectivement, le Talmid Chacham aura quand même le droit, ou même devra garder en queue pour un affront qu'on lui a causé. Mais si on lui demande le pardon, il devra l'accorder. Uma hen motziin achat oshtaim. La Gemara reprend le passage de la Mishnah. On dit qu'on procédait le tirage au sort en faisant une ronde de Kohanim et chacun sortait un doigt. Alors la Mishnah demande qu'est-ce qu'il sort, un ou deux doigts. La Gemara demande hashtaim motziin achat nivaya. Si déjà on a le droit de sortir deux doigts, alors c'est sûr que celui qui sort un doigt, c'est encore mieux. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit qu'on peut sortir un ou deux doigts? La Gemara répond, Amar Adir Al-Khizda. La Kasha, ce n'est pas une question. Kan Bebavi, là où la Mishnah nous mentionne de sortir un doigt, il s'agit de quelqu'un de en bonne santé, alors lui devra sortir un seul doigt. Kan Becholé, par contre, là où la Mishnah nous parle de sortir deux doigts, ça nous parle d'un malade, où il a du mal à ne sortir qu'un seul doigt, alors lui, on permettra de sortir deux doigts. La Gemara continue, Behatania, effectivement on voit comme ça dans une braïta, Achat Motsiim, Shtaim El Motsiim. Il pourra sortir un doigt, mais deux doigts, on n'a pas le droit d'en sortir. Bam et Dvarim Amourim Bebari. Quand ces choses sont dites, on parle de quelqu'un en bonne santé. Aval Becholé, par contre, un malade, Afilu Shtaim Motsiim, pourra sortir même deux doigts. Zahayechidim Motsiim Shtaim. Et ceux qui sont si malades, qui sont assis ou couchés séparément, ceux-là pourront sortir deux doigts aussi. Belmonim Laim El Achat, par contre, même pour ceux qui sortent de doigts, on ne les comptera que comme un doigt, parce que ça ne représente, ces doigts ne représentent qu'une seule personne. Donc, ma demande, Venmonim lo el achat, est-il vrai qu'on compte les deux doigts sortis par les malades que comme un, Batania, voici qu'on a vu dans une braïta, en motsiim, pour ceux qui participent au tirage au sort, ne sortiront pas avec leur index, lo shalish, ni le majeur, velo goudal, et ni le pouce, l'itner amayim à cause des trompeurs, qui voudrait se faire passer pour faire sortir de doigts pour passer pour deux personnes. Bimotsi Shalish, si quelqu'un a sorti son majeur, Monimlo, ils ont le contrat. Goudal et Monimlo. Par contre, s'il sort le pouce, on ne le comptera pas, le Od, et non seulement ça, qu'il sera éliminé du tirage au sort. Et là, chez l'Okemina Memune de Pakia, il sera fouetté par le responsable du fouet. Alors la Gemara comprend ici que celui qui a sorti le majeur sera compté comme un doigt supplémentaire. La Gemara répond, Maimonimlo, Nami, Achat. En fait, ce que la Gemara a voulu dire que on le compte en fait que pour un. C'est-à-dire celui qui sort son majeur, puisque ça se voyait facilement que ce majeur appartenait à la même personne que celui que l'index qui est à côté, il ne pouvait pas tromper. C'est pourquoi il n'était pas éliminé du tirage au sort, et on le comptait comme une personne. Par contre, celui qui sortait son pouce, puisqu'il était éloigné de l'index, et le responsable pouvait se tromper, et le compter comme deux personnes, c'est pourquoi il était éliminé du tirage au sort. La Gemara demande, Maï Pakia, que veut dire le terme de Pakia? La Gemara répond, Amar a dit Rav, Madra, c'est une sorte de fouet. La Gemara demande, Maï Madra, que veut dire ce terme de Madra? La Gemara répond, Amar Adir Papa, Metarka de Taïe, c'est le fouet des Arabes, c'était le fouet que les Arabes employaient pour frapper leurs animaux. En fait, ce fouet était une espèce de lanière, de pâtis gréchés, dont l'extrémité était taillée de manière à former plusieurs fines lanières, et ça faisait beaucoup plus mal quand on frappait avec. Amar Adir Abay, Meresh Havamina, au début, je pensais Hadetnam, que l'explication de cette Mishnah qui disait Ben Bibay Memouné à la Pakia, Ben Bibay, c'est le nom d'une personne, était responsable du Pakia. Amina, je pensais, Pitilta, cela faisait allusion au mèche, c'est-à-dire c'était lui qui était responsable de fabriquer les mèches pour la menorah du Betamidash. Que Detnan, comme vous voyez dans une Mishnah, Midlae Mirse HaKohanim, à partir des pantalons usés des Kohanim, ou Mirmianem, et à partir de leur ceinture usée, Mehem, Hayum Afkiim, à partir d'eux, la Gemara comprend maintenant ici, on faisait des mèches, ou Bahem Hayum Adlikim, et c'est avec ces mèches qu'on allumait là-bas dans la Mishnah de Souka, il s'agit des lampes spéciales allumées à Simchat Betashoeva. Kivan Deshaman Aleha de Tania, une fois que j'ai entendu cette braïta, Velo Od Elash Elo Kimina Memune Bepakia, et en plus du fait que celui qui a sorti son pouce soit éliminé du tirage au sort, il était fouetté par celui qui était responsable du fouet. Amina, alors j'ai dit Maï Pakia, que veut dire le terme de Pakia, donc ce Bin Bibai qui était responsable du Pakia. Nagda, ça veut dire qu'il était responsable de fouetter ce qui le méritait. En fait, le terme de Pakia veut dire couper ou tailler, et en fait, donc, dans la Mishnah de Souka, on a voulu dire qu'on coupait ou déchirer les pantalons usés des Kohanim pour en faire des mèches. Et là, quand la Mishnah voulait dire que Ben Bibal était responsable du Pakia, cela faisait allusion au fouet, qui ne l'en veut plus haut, et une lanière qui était taillée au bout pour former des petites lanières. Maaseh Shaouch Neem Shabim de Rafim Golim Bakadesh. Maintenant, on va reprendre le passage de la Mishnah qui dit qu'il y a une histoire où il y a deux Kohanim qui étaient arrivés à la même hauteur pendant la course sur la rampe d'accès sur le Mizbéar, et un a poussé l'autre, et il est tombé, il s'est cassé la jambe. La Gemara dit, Tanu Rabbanan, Chachamim, Monsignor, Zanjim Baïta. Maaseh de Shne Kohanim, il y a une histoire avec deux Kohanim, Shaouch Neem Shabim de Rafim Golim Bakadesh, qui étaient tous les deux arrivés à la même hauteur pendant la course sur la rampe d'accès du Mizbéar. Kazam et Mehem, un des deux est arrivé à devancer le deuxième, le Tor Arba Motul Chabero, et a atteint en premier les quatre coudées qui sont juste avant le Mizbéar, que son collègue pensait atteindre en premier. Natal Sakin, Betakal Obelibo. Alors le deuxième, celui qui a perdu la course, a pris un couteau et l'a enfoncé dans le cœur de l'autre, et l'a tué de cette manière. Amad Rabbi Tzadok, Alma Alot Aulam, Rabbi Tzadok s'est mis debout sur l'escalier qui menait au Oulam. C'est en fait une des salles qui était construite dans le Harbaït. Il ne s'agit pas du Oulam qui était devant le Echal. De Amar, et a dit les paroles suivantes. Achenu Bet Israël Shmaou, nos frères du clan d'Israël, écoutez. Haré Omer, voici que le passage dit dans le Varim, qui m'attire Khalal Ba'adama, si on trouve un cadavre par terre, Veyatou Zekenecha Veshoftecha, et tes sages et tes juges sortiront, cela pour déterminer quelle était la ville la plus proche à ce cadavre. La Torah estime que c'est la ville la plus proche qui est responsable de ce meurtre, et pour pardonner ce meurtre, elle devra amener une génisse et l'abattre d'un coup de hache sur la nuque. Alors, Rabbi Tzadok continue à s'exprimer. Anu al-Milavi et Klaavufa. Dans notre cas, qui est-ce qui devra amener cette génisse pour l'abattre d'un coup de hache sur la nuque? Al-Ha'ir ou Al-Azaroth? Est-ce que c'est la ville de Yerushalayim qui devra amener cette génisse, ou bien c'est les habitants des différentes salles du Beit HaMikdash? La Gemara expliquera qu'est-ce qu'il a voulu dire. Gaou kol ha'am bibriya, tout le peuple a éclaté en pleurs. Ba Aviv Shel Tinok, le père de ce jeune homme qui a été assassiné est venu, ou Metsao Kshoum par terre. En le trouvant, il a vu qu'il palpitait encore. Amar, il a dit les paroles suivantes. Haré ou kaparachem, je souhaite que la mort de mon fils amène le pardon sur vos péchés. Dadaim benu me parpère. Par contre, vous devez savoir que mon fils palpite encore. Velon itme asakim. Et donc le couteau qui est planté dans son cœur n'est pas encore devenu impur. Il faudrait donc le sortir avant qu'il meure pour préserver la pureté de ce couteau. Le lamedra, cela nous montre, c'est caché à l'EMT Araskelim, qu'il est plus grave à leurs yeux de ne pas préserver la pureté des ustensiles, yoter mesfichut damim, que le meurtre. Bechen hu omer, et ainsi nous voyons dans un pasouk, vegam dam naki, shafach menashe harbenod, et beaucoup de sang innocent a versé le roi menashe, alachem ilay sur Yerushalayim pelapé, jusqu'à ce qu'il remplisse la ville de Yerushalayim d'un bout à l'autre. La Gemara expliquera qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk. En tout cas, nous avons donc deux histoires. Une, c'est l'histoire de la Mishnah où un des Kohanim s'est cassé la jambe en faisant la course pour accomplir cette mitzvah de Tourmat HaDeshen. C'est à la suite de cette histoire que les Chachamim ont institué un tirage au sort pour cette mitzvah. Une deuxième histoire, c'est ce qu'on vient de voir dans la Breita où il y a eu un meurtre. La Gemara demande, Hema Tekadim, laquelle des deux histoires s'est passée en premier? Il est ma déchirut d'amim. Si tu veux me dire que c'est l'histoire du meurtre qui s'est passée en premier, et quand même, les Chachamim n'ont pas institué un tirage au sort pour cette mitzvah. Alors, hashta, hashpechut d'amim l'otakinu païsa. Si déjà, à la suite d'un meurtre, les Chachamim n'ont pas jugé bon d'instituer un tirage au sort, anjibera aglo takinu, est-il possible qu'à la suite de l'histoire, où le seul dommage a été une jambe cassée, les Chachamim ont institué le tirage au sort? Et là, c'est pourquoi la Gemara dit, Denishbera Aglo Khadim. L'histoire où le dommage a été une jambe cassée, c'est l'histoire qui a eu en premier lieu. La Gemara demande, le Kivan et Takinu Paisa, puisque déjà à la suite de la première histoire, ils ont institué un tirage au sort. Arba Amot Ma'abiditayu. Alors comment s'est passée la deuxième histoire où il y a eu un meurtre quand un des Kohanim a atteint les quatre dernières coudées de la rampe d'accès au Mizbéar, alors que ce n'était plus la course qui déterminait lequel des Kohanim mériterait d'accomplir cette mitzvah de Tumat HaDeshen, mais c'était le tirage au sort qui déterminait lequel des Kohanim mériterait d'accomplir cette mitzvah. Et là, c'est pourquoi le Olam de Shvichut Damim Kadim. C'est pourquoi nous dirons que c'est le meurtre qui a eu en premier lieu, ou Mikara Savur Akraeba Al-Mahou. Au début, les Chachamim ont pensé que c'était en fait par hasard, comme le Siach Yitzhak explique, que en fait, entre les deux Kohanim, il y avait une animosité qui régnait, et que ce Kohen a saisi l'occasion pour faire un règlement de compte. Parce que les Chachamim ont estimé que pour mériter l'accomplissement de cette mitzvah, dans des conditions normales, on n'arriverait jamais au meurtre. Kidan Bechazé, quand les Chachamim ont vu la deuxième histoire, où un des Kohanim a bousculé l'autre, et le deuxième s'est cassé la jambe, et donc ils ont vu que c'est une afilou minela à tous les deux sakana, et en fait, les Chachamim ont compris qu'il pouvait avoir un danger, même sans raison particulière, et sans préméditation, à la suite d'une bousculade qu'il pouvait avoir quand les Kohanim atteignaient le sommet du Mizbéar, Takilo Rabbanan Paisa, les Chachamim ont institué un tirage au sort pour déterminer lequel de Kohanim méritera d'accomplir cette mitzvah. Agmar, on prend le passage d'Abraïta qui dit, Amad Rabbi Tzadok al-Malot Aulam, Rabbi Tzadok s'est mis debout sur l'escalier qui menait vers le Oulam, c'était une des salles qui était construite dans le Har HaBayit. Damar a dit les paroles suivantes, Achenu Bet Israël, Shema'u, nos frères de Bnei Israël, écoutez, Hare Omer, voici qu'on a vu dans un pasouk de Sefer Dvarim, qui imatse Khalal Ba'adama, si on trouve un cadavre par terre, on ne sait pas qui l'a tué, la ville la plus proche devra amener une génisse et la battre d'un coup de hache sur la nuque. Anan, Almila Aviv, dans notre cas, qu'est-ce qui devra amener cette génisse? À la Irola Azarot, est-ce que c'est la ville de Yerushalayim où les habitants de l'Azara, de Azarot, ou des différentes salles du Beth Amikdash? À la Gemara demande, Yerushalayim bat Atuyeg la Rufahi, est-ce que la ville de Yerushalayim peut avoir l'obligation d'amener une génisse et la battre d'un coup de hache sur la nuque? Ben, attendez, voici qu'on a vu dans une braïta à Saran de Varim Memour de Yerushalayim. Il y a 10 halakhot qui ont été dites à propos de la ville de Yerushalayim. Zouachat Mehem, et celle-là est une de ces 10 halakhot.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Chavdim El Moudet. Enam Evia Egla Arufa, la ville, même si on trouve un cadavre proche de la ville de Yerushalayim, le tribunal de la ville de Yerushalayim ne devra pas amener une génisse et la battre d'un coup de hache sur sa nuque. C'est là parce que le pasouk dit, si on trouve un cadavre dans la terre que beaucoup te donne en héritage, et ce Tana pense que la ville de Yerushalayim n'a pas été partagée entre les différentes tribus du clan d'Israël, c'est pourquoi la ville de Yerushalayim sera exemptée de cette obligation. Donc on ne comprend pas pourquoi Rabbi Tzadok s'est posé la question, à savoir qui est-ce qui devra amener cette génisse. Deuxième question, une des conditions pour amener cette génisse était le fait que le pasouk dit, on ne sait pas qui l'a tué, qui l'a frappé. Et dans notre cas, nous savons qui est-ce qui l'a tué. On a vu le Kohen qui l'a tué. Donc toujours, pourquoi Rabbi Tzadok s'est posé la question, qu'est-ce que devra amener cette génisse? Magma répond, et là, c'est la route de Bria. En fait, Rabbi Tzadok ne s'était pas vraiment posé la question qu'il devait amener une génisse. Non. Mais en fait, il dit ses paroles pour exhorter les gens à pleurer plus fort. Ce qu'il a voulu dire, c'est que même dans le cas où on ne connaît pas le meurtrier, la Torah impute la responsabilité de ce meurtre à la ville la plus proche. C'est pourquoi il doit ramener cette Egla Rufa pour se faire pardonner ce meurtre. Dans notre cas où le meurtre s'est fait devant tout le monde, on ne pouvait quand même pas mettre l'assassin à mort parce qu'il n'y avait pas eu d'avertissement, mais il y a quand même une responsabilité collective sur ce meurtre, et donc ils ont besoin de se faire pardonner ce meurtre. Et comme on ne peut justement pas amener de l'Egla Rufa, ils n'ont donc rien, aucune chose à faire pour se faire pardonner, et donc il leur faudra un repentir sincère. Et nous voyons qu'il a réussi. Elma reprend le passage de la Bretta qui dit, Ba'aviv shel tinok, le père de ce jeune homme qui a été assassiné, est venu, ou metsaouk shou me farper, et en le trouvant, il a vu qu'il palpitait encore. Amar, il a dit les paroles suivantes, Hare ou kapar akhem, je souhaite que sa mort amène le pardon à vos péchés. Badaim benikayam, mais voilà que mon fils est encore vivant. Il faut donc retirer le couteau planté dans son corps avant qu'il ne devienne impur. Et la mettra, cela nous montre, chez Kaché Alehem Taharat Kelim, il est plus grave à leurs yeux le fait de ne pas préserver la pureté des ustensiles, le terme Shfirut Damim, plus que le meurtre. Iba Elevu, la Gemara s'est posé une question, Shfirut Damim ou Dezam, est-ce que c'est la gravité du meurtre qui est devenue plus légère à leurs yeux, Aval Taharat Kelim Kelekaim Akaima, mais le fait de préserver la pureté des ustensiles est resté aussi importante à leurs yeux. Odilma, Shfirut Damim Kelekaim Akaima, ou bien la gravité du meurtre est toujours restée importante à leurs yeux, Aval Taharat Kelim de Khamira, mais la Bretta vous nous enseignez que l'importance de préserver la pureté des ustensiles est devenue beaucoup plus importante à leurs yeux. Tachma, Magma répond, viens écoute cette preuve, Midi Kanasiv la Tamuda, puisque la Breita nous emmène ce pasouk, Vegam Damnaki Shapach Menaché, et beaucoup de sang innocent a versé le roi Menaché, Shmamina, la Breita donc vient nous enseigner que Shfirut Damim Udezal, c'est l'importance du meurtre qui est devenue plus légère à leurs yeux, Vetaharat Kelim Kedekaina Kama, et l'importance de préserver la pureté des ustensiles est restée à la même importance à leurs yeux. En fait, voir le Maharsha. Tanu Rabbanan, le Chachamim enseigne dans une Braïta. Upashat, le Kohen enlèvera les habits qu'il a portés pour accomplir la mitzvah de Tumat Hadeshen, Velabash Bgadim Acherim, et portera d'autres habits, Velotiet Hadeshen, et sortira toute la cendre qu'il a sur le Mizbeach. En d'autres termes, il déblaira la cendre du Mizbeach. Shom Ami, on pourrait comprendre que ce pasouk exige pour déblayer la cendre du Mizbeach un changement d'habit, que d'ailleurs Yom Kippourim, comme la Torah l'exige pour le service de Yom Kippour, le Kohen devait changer plusieurs fois ses habits pendant le service de Yom Kippour en passant des habits huit habits destinés au Kohen Gadol aux quatre habits destinés au service de Yom Kippour et vice versa. Et puisque pour le Kohen Ediot, il n'y a pas de possibilité de changer d'habit parce qu'il ne peut pas porter les habits du Kohen Gadol, on comprendra que le Pasouk a voulu dire que chez Pochet Big de Kodesh, le Kohen enlèvera les habits saints destinés au service du Beth Amikdash qu'il a porté pour accomplir la mitzvah de Tumat Hadeshen, Velovesh Big de Chol, et portera des habits ordinaires pour déblayer la cendre de sur le Mizbeach. Talmud Lomar, c'est pourquoi le Pasouk nous dit, ou Pashat et Begadav, il enlèvera ses habits, Velavash Begadim Acherim, et portera d'autres habits, puisque la Torah a répété deux fois le terme de Begadav, Nekish Begadim Shelovesh, le Begadim Shepochet. On comprendra donc que la Torah a voulu comparer les habits qu'il met pour déblayer la cendre aux habits qu'il enlèvera. Il s'agit des habits qu'il a portés pour la Tourmata Deshet. Malalan Big de Kodesh, de la même manière que les habits qu'il a portés pour la Tourmata Hadeshem, c'était des habits Big de Kodesh, c'était des habits saints destinés au service du Beth Amikdash. Afkan Big de Kodesh, là aussi, les habits qu'il portera pour déblayer la cendre du Mizbeach seront des habits saints destinés au service du Beth Amikdash. Imken, si c'est pourquoi Matalmud Lomar Acherim, pourquoi est-ce que la Torah emploie le terme de Acherim qui veut dire autre? Donc c'est ça en fait qui nous a induit à comprendre qu'il s'agissait des habits ordinaires. La Braïta répond, Proutim Mehem, ça vient nous dire qu'on portera des habits de moindre qualité. La Gemara expliquera pourquoi. Rabbi Eliezer Omer dit, Acherim Vehotsi, le terme de Acherim ne se rapporte pas aux habits, mais au terme qui suit, qui est un verbe, et donc au Kohanim. C'est donc les autres qui sortiront. L'imet, cela nous enseigne, à la Kohanim, balemumim, shekcherim, et aussi tateshem. Que les Kohanim qui ont un défaut corporel auront le droit de participer à la mitzvah de déblayer la cendre de sur le misbère. Amar Mar, la Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit, Acherim Prutimehem, que le terme de Acherim veut dire qu'on pour déblayer la cendre de sur le misbéar, le Kohen portera des habits de moindre qualité. Quel est l'état de Rabbi Ishmael? Cette Braïta donc rejoint l'opinion de cette Braïta qui a été enseignée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, de l'état de Rabbi Ishmael. Ce qu'il a été enseigné une Braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Gadim, Shebishel Bahem, Kdera le Rabo. Des habits portés par le serviteur pour cuire un plat pour son maître. Ces habits sont donc salis. Le Nzog Bahem Kos le Rabo ne pourront pas être portés par lui quand il voudra servir une boisson à son maître, qui est un acte, qui est un service d'honneur, et donc c'est un manque de respect. Alors là aussi, on dira que des habits portés par le Kohen pour déblayer la cendre du misbéar ne pourront pas être portés par lui quand il fait le service d'offrande des korbanot, qui est un service d'honneur, et c'est donc un manque de respect. C'est pourquoi on réservera des habits de moindre qualité pour déblayer la cendre de sur le misbéar. Amar a dit Resh Lakish, que machloket behotzaa, de la même manière que nous avons vu une machloket dans la Braïta plus entre Tanakam et Rabbi Eliezer, à savoir si un Kohen qui a un défaut corporel peut participer à la mitzvah de déblayer la cendre de sur le misbéar, car machloket behorama, il y aura la même machloket à propos de la mitzvah de Trumat HaDeshen. Donc, selon Tanakam, un Kohen qui a un défaut corporel ne peut pas accomplir cette mitzvah, alors que selon Rabbi Eliezer, même un Kohen qui a un défaut peut accomplir cette mitzvah. De Rabbi Yochanan Amar dit, Machloket Botsa, la discussion entre Rabbi Eliezer et Tanakama n'est qu'à propos du déblayement de la cendre de sur le misbéar. Aval Beharama, par contre, à propos de la mitzvah de Trumat HaDeshen, du Brakol Avodahi, selon l'avis de tout le monde est d'accord que c'est un service, c'est un considéré comme un service, et donc un Kohen qui a un défaut corporel ne peut pas accomplir cette mitzvah. La Gemara demande, Maïtama de Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? La Gemara répond, Amar Lacha, Resh Lakish te dira, Isal Gadata Chavodahi, si tu penses que la Trumat HaDeshen est un service à part entière, Yesh Lacha Avodah Shekshera B'Shnekelim, est-ce qu'il existe un service que le Kohen peut faire ne portant que deux des quatre habits destinés au service du Beit HaMikdash? Resh Lakish a compris en fait que puisque le pasuk ne mentionne que la tunique et l'espèce de pantalon, ce n'est que ces deux habits que le Kohen devait porter pour faire cette mitzvah de Trumat HaDeshen. De Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan en fait refute cette preuve, mais dit que ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Galé Rahmana Bektonet Umechmetain, la Torah a dévoilé que le Kohen devait porter la tunique et le pantalon. Bouadin, le Mitzmetet Zavnet, mais en fait, on comprendra aussi que la Torah voulait dire que les autres habits, donc le turban et la ceinture, devaient aussi être portés par le Kohen pour accomplir cette mitzvah de Trumat HaDeshen. Il n'y a donc aucune raison de penser qu'un Kohen qui a un défaut corporel puisse accomplir cette mitzvah de Trumat HaDeshen. La Gemara demande au Maïshnahane, on sait comme ça selon Rabbi Yochanan, pourquoi est-ce que la Torah a insisté sur le fait que le Kohen portait ses habits, puisque donc la tunique et le pantalon, puisque c'est tous les habits qu'il devait porter. La Gemara répond, Mido Bad, le fait que la Torah dise que le Kohen qui voulait accomplir cette mitzvah de Trumat HaDeshen devait porter une tunique en lin, cela vient nous enseigner Mido Kumidato. En fait, parce que le terme de Midato nous dit que les habits du Kohen devaient être exactement adaptés à sa taille. Nikhne Sebad, le fait que la Torah a répété, a insisté sur le fait que ce Kohen qui voulait faire cette mitzvah devait porter un pantalon en lin, Igdetania, ça vient nous enseigner ce que la Braïta nous dit. Minaim, Shloye Davar Kodem Mechmetaim, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne faudra, le Kohen devra rien mettre avant le pantalon, chez Neymar, parce que le pasuk dit, ou Mechne Sebad, il bâche al Betaro. Et le Kohen mettra un pantalon de lin sur sa chair. Le fait que la Torah a insisté sur le fait, par le fait qu'elle emploie le terme de al Betaro sur sa chair, évidemment qu'il met ce pantalon sur sa peau, ça vient nous enseigner que quand il n'a rien d'autre sur sa peau, il mettra en premier son pantalon. La Gemara demande de Resh Lakish, et d'où est-ce que Resh Lakish apprendra ses halakhot, puisqu'il a déduit de ce pasouk que le Kohen qui pourra accomplir cette mitzvah de Trumat HaDeshen ne devait porter que deux habits, la tunique et le pantalon. Alors la Gemara répond, Mido Kemidato, cette halakha du terme de Mido, on apprend que les habits devaient être adaptés exactement à la taille du Kohen, Midavke Rachmana Belashon Mido, puisque la Torah a, pour désigner la tunique, employé le terme de Mido, c'est pourquoi on apprendra que les habits du Kohen doivent être adaptés à sa taille. C'est en fait un mot à double sens. Cette deuxième halakha de Shelo Yedava Kodem de Mishnasarim, que le Kohen ne devra rien mettre sur sa peau avant le pantalon, c'était le pantalon qui devait être mis en premier, mais Al Besaro Nafkat, du fait que la Torah a employé ces termes de Al Besaro qui sont en trop, qu'on apprend cette halakha. Nous avons fini le shiur de Yumadav Kavzime. Nous commençons le shiur de Yuma d'Achav Dalet. Nous commençons d'Achav Gimel Amoud Bet, à 10 lignes du bas de la page. Nous avons vu précédemment une machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, à savoir si un Kohen qui a une infirmité peut accomplir la mitzvah de Tourmat HaDeshet. Selon Resh Lakish, Rabbi Eliezer pense qu'un Kohen qui a une infirmité peut faire cette mitzvah, alors que Tanna Kama pense qu'un Kohen qui a une infirmité ne peut pas accomplir la mitzvah de Tourmat HaDeshet. Selon Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord qu'un Kohen qui a une infirmité ne peut pas accomplir cette mitzvah. Cela dépendait de l'interprétation du pasouk, à savoir combien d'habits devait porter le Kohen qui a accompli cette mitzvah. Selon Resh Lakish, puisque le pasouk n'a cité que deux habits, la tunique et le pantalon, le Kohen pouvait se contenter de porter ces deux habits. Selon Rabbi Yochanan, bien que le pasouk n'ait cité que deux habits, comme nous l'avons dit, le Kohen devait porter les quatre habits réglementaires pour accomplir cette mitzvah de Tourmat HaDeshet. La Gemara dit, on n'a qu'à dire que c'est une machloket Tanaïm, à savoir combien d'habits devait porter le Kohen pour cette mitzvah de Tourmat HaDeshet. Le pasouk commence par dire, le Kohen mettra une tunique en lin, et en fait, il aurait pu se contenter de dire, et un pantalon, al-besaro, sur sa chair. Matalmud lomar ilbash, pourquoi est-ce que le pasouk a dû dire le terme de ilbash, et dire donc, il mettra un pantalon sur sa peau, puisqu'il a déjà commencé, le terme de ilbash a déjà été employé au début du pasouk. La Braïta répond, le ravi mitznefet ve'avnet le harama. Ça vient nous inclure le chapeau et la ceinture que le Kohen devra porter pour cette mitzvah de Tourmat HaDeshet. D'ivrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer dit, le rabot bigde Kohen gadol be'yom ha-kippurim, shekherim le Kohen idiot. Ça vient nous inclure que même les habits portés par le Kohen Gadol pour le service de Yom Kippour pourront être utilisés par le Kohen Idiot pour le service du Beit Hamikdash. Amar a dit Rabbi, Shtetchou Badava. Il y a deux réfutations à cette explication. Chada, premièrement, de Abneto Shel Kohen Gadol, Lozehu Abneto Shel Kohen Idiot. La ceinture que le Kohen Gadol porte pour le service de Yom Kippour, qui est en lin, n'est pas la même ceinture que le Kohen Idiot porte tous les jours de l'année. Selon Rabbi, cette ceinture du Kohen Idiot était en fait fabriquée avec quatre sortes de fibres. En effet, on utilisait du lin, de la laine bleue, de la laine rouge et de la laine pourpre pour fabriquer cette ceinture. Ve'od, et encore, Gadim Shnishtamash Tabayim Kudushak Chamura, Shnishtamash Tabayim Kudushak Allah, est-ce que des habits portés, utilisés pour un service de grande sainteté, le service Yom Kippour pourra être utilisé pour un travail de moindre Kedusha. Il est donc impossible, selon Rabbi, de dire que le pasouk vient de nous dire que le Kohen Idiot puisse porter les habits utilisés par le Kohen Gadol pour le service Yom Kippour pour le service de l'année. Et là, c'est pourquoi Matamud Omar Ilbash, qu'est-ce que vient de nous dire le terme de Ilbash dans le pasouk qu'on a vu au début de la Breita.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.